Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier, on est ensemble jusqu'à 15h sur RMC Story. Le Sénat étudie aujourd'hui la possibilité de lever partiellement l'anonymat sur le don de sperme. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est notre sujet jusqu'à 14h.
Vous êtes des millions à écouter les matchs de l'Euro sur RMC, mais vous êtes aussi des millions à en profiter pour parier en ligne sur les matchs, sur le sport en général. Est-ce que parier de l'argent, ça rend les matchs, le sport plus excitant? Ah ouais, il y a un petit débat. Tout le monde ne parie pas. Est-ce que c'est mieux de regarder un match quand on a parié ou pas? On vous attend au 32-16, on va en débattre.
À 13h50, c'est bon à savoir, de l'info et de la bonne humeur avec Lisa Marie Marquez. On parle de quoi, Lisa Marie, aujourd'hui?
On va parler du casse-tête du calendrier de la présidentielle 2022.
Mais avant, on va parler du don de sperme en France. En France, aujourd'hui, les dons de sperme ou d'ovocytes sont strictement anonymes, mais ça fait des années que des enfants recherchant leurs parents biologiques demandent la possibilité de lever cet anonymat. Le projet de loi bioéthique revient au Sénat aujourd'hui pour une troisième lecture. L'article 3 prévoit de lever partiellement l'anonymat des donneurs de sperme et d'ovocytes. La personne qui souhaitera à sa majorité accéder à des informations pourra se tourner vers une commission qui aura accès à des informations. Le donneur, lui, pourra s'opposer à une transmission des données s'il le souhaite. Écoutez les explications de René Friedman. Il est médecin spécialiste de la reproduction. Il était sur France Inter début juin.
Il est prévu, en tous les cas, qu'il y ait incontestablement une possibilité pour l'enfant qui est né par ce procédé de remonter en partie à ses origines. Alors je dis en partie, c'est-à-dire que d'avoir des informations non identifiantes, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est un tel ou un tel, mais on sait certaines caractéristiques du donneur ou de la donneuse s'il le demande.
Alors avant de rentrer dans le débat et d'essayer d'y voir plus clair, en 2017, on a enregistré 404 dons de spermatozoïdes et 756 dons d'ovocytes. 1282 enfants sont nés grâce à un don de gamètes. Notre question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de lever l'anonymat sur le don de sperme? Emmanuel, tu dis bonne.
Bah oui, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que autant aller jusqu'au bout du raisonnement. Quand vous avez un père que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui vous poursuit sans doute toute votre vie, qui vous obsède toute votre vie. Alors peut-être pas tout le monde, mais je pense que ça gâche en partie la vie d'une partie de ces enfants-là. Après, moi je constate qu'il y a quand même beaucoup de pays qui ont fait cette démarche, hein, de lever l'anonymat. Il y a eu la Suède, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège, les Pays-Bas. Il y a des mesures plus ou moins adaptées pour effectivement aller vers cette dispositif, vers ces dispositifs. Donc moi je pense que c'est vraiment une bonne idée. Après, il reste à organiser le dispositif. Et puis il faut être très clair. Il faut pas, il s'agit pas de retrouver quelqu'un qui va devenir votre père. C'est-à-dire, le père, c'est celui qui vous a élevé. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Il y a pas de doute là-dessus. Et je pense que tous les enfants qui ont été élevés par un père, même si c'est pas leur père biologique, c'est leur père affectif. Donc ça, il s'agit pas de prendre la place. Et je pense que, effectivement, ça, c'est une réticence à lever chez les parents qui peuvent avoir peur de se sentir dépossédés. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que l'amour, c'est pas quelque chose qui est en quantité restreinte. C'est pas comme la plupart des biens économiques.
Ça se multiplie.
Mais vous pouvez le multiplier. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que vous partagez. C'est pas un gâteau qu'on partage en part de plus en plus petite si vous aimez beaucoup de gens. Donc moi, pour toutes ces raisons-là, je pense que ce serait bien de lever l'anonymat ou d'ouvrir cette perspective.
Toi, Laurent, tu es réticent.
Oui, je suis réticent parce que j'ai très peur que la levée de la... D'abord, tout ce que tu as dit, je l'entends, je le comprends. Je conçois que des enfants nés d'un don aient envie de connaître leur géniteur. C'est absolument humain. Mais si on va vers la levée de l'anonymat, j'ai très très peur que ça conduise à... que ça inquiète les donneurs et que ça, du coup, ça décourage le don et qu'on arrive à terme à une forme de pénurie de dons de sperme sperme et d'ovocytes d'ailleurs dans les deux cas. Et d'ailleurs, je suis allé regarder, tu as parlé de tous ces pays qui sont allés vers la levée de l'anonymat. En Angleterre, quand ils y sont allés en 2005, ou en Finlande l'année d'après en 2006, eh ben tu as assisté à une baisse.
Et après ça remonte.
Et ça a remonté, mais plusieurs années après. Or, il se trouve que ce texte dont on est en train de discuter actuellement au Parlement, au Sénat aujourd'hui, il est concomitant avec l'ouverture de la PMA. Donc il va y avoir une multiplication par deux ou par trois de la demande. Et si on fait la levée de l'anonymat en même temps, on risque d'aller vers une pénurie.
Moins d'offres,
de dons.
Plus de demandes.
Exactement. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, et moi, ça m'épate à chaque fois qu'on parle de ces questions de bioéthique, on parle de grands principes, et on peut être pour, être contre, etc. On ne parle jamais, jamais des moyens. Je suis allé regarder. Est-ce que tu sais qu'il faut 6 mois pour avoir ton premier rendez-vous, pour obtenir un don? 6 mois, juste pour avoir rendez-vous avec ceux qui s'en occupent. Et une fois que tu as fait tout le parcours, il faut attendre entre 12 et 15 mois pour obtenir le don. Et pourquoi on en est là? Pas de personnel, pas de moyens. Des SECOS, les fameux centres de conservation du sperme et des œufs, qui sont sous-dimensionnés. Et là, on va ouvrir à la PMA, et c'est un progrès formidable, mais il faut augmenter les moyens. Et à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, les grands principes, bon ou mauvais, on peut en débattre, c'est un sujet extrêmement personnel, la levée de l'anonymat. On peut être pour, t'as de bons arguments, j'ai de bons arguments, très bien. Mais les moyens, on n'en parle jamais. Et donc on risque de faire voter une loi qu'on sera pas capable d'appliquer derrière. Et ça m'inquiète.
On est avec Arthur Kermalvezen. Bonjour, vous êtes président et cofondateur de l'association Origine, représentant des associations de défense du droit à la connaissance de ses origines. Vous allez nous raconter votre histoire à vous qui est incroyable dans un instant. Mais juste avant, Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Et on attend vos réactions et vos messages sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
Arthur, ça faisait des années que vous recherchiez vos origines et un beau jour, vous avez reçu un coup de fil juste après Noël. On dirait un film.
Vous croyez pas si bien dire. Mon histoire va être justement adaptée au cinéma.
Ah.
Et oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est juste dingue. J'ai commandé chez moi sur Internet un test. J'ai craché dans un tube. Je l'ai renvoyé par la poste. On était 10 dans mon salon. Au bout de 3 semaines, je reçois les résultats. Et 12 heures plus tard, j'ai un prénom, un nom et une adresse. Voilà. Donc j'ai eu la sensation de passer de l'autre côté du miroir. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'en réalité, mon histoire illustre une chose. C'est que la société civile, les moyens technologiques, Internet, les achats en ligne font qu'aujourd'hui, ce texte de loi est complètement obsolète. Ça veut pas dire qu'on va pas débattre, hein. Je vous dis juste que tout ça est complètement dépassé. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un accès aux origines dans 18 ans. Dans 18 ans, un test ADN, ça coûtera 20 euros. Moi, je l'ai payé 50 euros. Enfin, franchement,
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, si on veut retrouver ses origines, c'est possible?
C'était quoi ce test?
Parce que moi, je connais. C'est
un test qui s'appelle 23andMe International. Et ce qui est génial, c'est qu'après, vous pouvez télécharger votre ADN brut sur un site gratuitement qui s'appelle MyHeritage. Désolé, je leur fais de la pub. Puis après, il y a une autre base de données américaine qui est très grosse parce que eux, sont issus de l'immigration et donc la généalogie, ça les intéresse beaucoup. Et donc, vous ne pouvez pas le commander normalement en France, mais si vous allez sur amazon.dutch, vous pouvez le commander et vous le recevrez quand même à votre adresse française.
Donc, la loi,
en fait,
telle
qu'elle. Déjà,
mais oui, c'est-à-dire mais on peut tout faire de manière privée. Déjà. Ça veut dire que la loi, le débat public est complètement has-been, là.
Ah, mais vous ne pouvez pas imaginer le retard qu'il y a. Donc, moi,
tout le monde peut retrouver ses origines vraiment s'il paye 50 euros.
Alors, de vrai, si 10% de la population mondiale fait ce test-là, tout le monde retrouve ses origines. Et ça tombe bien, parce que les Français, quelle est leur deuxième passion favorite? La généalogie. La généalogie. Donc, je veux dire, il faut pas se mentir. On sait que pour les gens, c'est important de savoir d'où ils viennent. Ils ont envie de connaître leurs ascendants. Ils veulent pouvoir parler de leur histoire familiale à leurs descendants.
Alors là,
effectivement, alors juste un petit bémol. Il faudrait que dans le débat on dise père et géniteur, parce que quand vous dites père et que mon père écoute,
c'est compliqué,
père,
ouais.
Dont je parle pas les gènes,
biologique et père,
ça lui fait mal.
Affectif,
et même quand on dit donneur, ça lui fait mal parce qu'il me dit attends, c'est moi qui t'ai tout donné. Donc quand on dit donneur, non, enfin le gars,
ça lui
a pris 5 minutes. Quoi.
Géniteur, ça va.
C'est le bon
terme.
Vraiment pas mal.
Ouais, mais alors attendez, alors à ce moment-là, si c'est si anodin que ça, si c'est si mécanique que ça. Pourquoi vous êtes tellement obsédé à l'idée de vouloir retrouver, parce que vous l'avez, votre père, il vous a aimé, vous n'avez pas été frustré.
Vous changez de camp, monsieur.
Vous n'avez pas manqué d'amour. Ça arrive très souvent.
Vous n'avez pas manqué d'amour. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le ressort.
Alors, le ressort est Je vais vous dire, ça répond à 25% de ce que j'ai reçu de cet homme-là, dans le sens où, rien que sur le plan du qu'est-ce que c'est la personnalité ? La personnalité, c'est un mélange du caractère et du tempérament. Le caractère, il se façonne, et le tempérament, il y a 50% qui est génétique. Quand je retrouve mon donneur, que je le regarde droit dans les yeux, que je le vois réfléchir, que je comprends des choses alors qu'il ne dit rien, que je suis exaspéré par certains des aspects de son tempérament, parce que justement j'ai la même chose, que j'aurais aimé être plus calme, que j'aurais aimé moins réfléchir, que j'aurais aimé... En fait, je suis comme tout le monde, je dois accepter le donneur que j'ai eu, faire avec, parce que ça fait partie, comme les psychanalystes en parlent très bien d'ailleurs, du principe de réalité. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. Et quand je rencontre mon donneur, eh bien, je me rends bien compte que les chiens ne font pas des chats.
On va aller au 32-16 dans un instant, mais juste votre donneur, finalement, il était d'accord pour que, puisque c'est lui qui vous contacte. Donc,
d'accord, et surtout ravi.
Mais c'est pas toujours le cas. On a vu notamment des cas où MyHeritage bouscule des familles, où ça devient extrêmement compliqué. Comment on fait
Franchement, moi, j'ai pas du tout cette expérience-là. Enfin, peut-être que j'ai de la chance, mais d'abord, mon histoire s'est très bien passée. Le premier truc que m'a dit mon donneur, c'est « Bravo de m'avoir retrouvé, j'aimerais bien savoir comment t'as fait ». Il était scotché.
Non, mais en vous écoutant, tout à coup m'est venu un nouvel argument qui me rend
réticent. J'en suis désolé.
Je suis désolé. Hein.
Mince.
Mais si on lève l'anonymat, on retrouve non pas son père, vous l'avez très bien dit, mais son géniteur, ce qui est totalement différent. Mmh. Mais n'empêche que ce géniteur, vous l'avez formidablement bien dit, c'est une part de vous.
Bah, et que j'ai transmise à mes enfants.
Et que vous avez transmise à
vos
enfants.
Et il y en a qui lui ressemblent beaucoup.
Or, lorsqu'on est par un don de sperme ou d'ovocyte, il est acquis qu'il n'y a pas de lien juridique et donc de lien de paternité, de descendance,
uniquement
de filiation
entre le donneur et le receveur.
De filiation, voilà. Et donc, la question, c'est, une fois que vous avez retrouvé votre géniteur, une fois qu'on aura levé l'anonymat, l'étape d'après, ça va être de dire, mais attendez, pourquoi il n'y aurait pas une forme de filiation?
Exactement.
Et puis, lorsqu'il va mourir, pourquoi je n'aurais pas le droit à la succession?
Alors,
et puis, d'ailleurs, ce monsieur géniteur...
Je crois que ton voisin a la réponse, Laurent.
Voilà, le processus.
Alors, le processus, il est très bien. Et d'ailleurs, vous partagez exactement les préoccupations de ceux qui ont créé la première loi de bioéthique en 1994. Avec notamment Mattei. Qu'est-ce qu'ils disent dans les débats? Attendez, je vais perdre le fil. Sur la filiation.
Sur la filiation.
Oui. Alors, article 311.
Vous ne pouvez pas hériter de votre géniteur, c'est ça.
Du Code civil. Nous avons la filiation la plus solide de France. Ça veut dire quoi? Que mon père, dont je ne suis pas génétiquement relié, ne peut pas défaire la filiation qu'on a ensemble. Même s'il prouve que génétiquement, je ne suis pas de lui. Et mon donneur ne peut pas être inquiété à raison de son don. Ça veut dire que il ne peut pas dire, regardez, on a fait un test.
Ça, c'est aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Voilà. Et ma question n'est pas celle-là.
Pour si demain, ils ont repris exactement ce dispositif.
Oui, mais donc, si demain, on lève l'anonymat et que n'importe quel enfant né d'un don peut retrouver
ça
son géniteur,
pas
l'étape d'après, ça va être de dire, mais maintenant que j'ai retrouvé mon géniteur...
Je déteste les gens qui disent l'étape d'après.
En fait,
d'après,
c'est prévu dans la loi. Coralie Dubos, d'ailleurs, a super bien travaillé. C'était la rapporteure sur cet article. Elle a repris exactement ce côté extrêmement solide de la filiation, parce qu'elle traitait à la fois de la filiation et en même temps de l'accès aux origines. Et elle s'est inspirée de ces deux articles qui font qu'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons la filiation la plus solide de France et qui ne passe pas par le sang.
On va continuer à parler de l'anonymat et le don de sperme. On prendra Antonio dans un instant, c'est promis. Ça fait déjà 10 minutes qu'il nous attend. Antonio en 32-16 qui est à Villeneuve-sur-Yonne. Vous restez avec nous, vous nous appelez surtout si vous êtes concerné par le sujet. Si vous voulez discuter avec nous, on vous attend au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chiffre.
Midi 15h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 15h. Le Sénat étudie aujourd'hui la possibilité de lever l'anonymat sur le don de sperme. Bonne ou mauvaise idée? Pour Neumann Le Chiffre, bonne, c'est trop douloureux de ne jamais savoir qui est son père. Pour Laurent Neumann, mauvaise, ça risque d'inquiéter et donc de décourager les donneurs. On est avec Arthur Kermalvezen, président et cofondateur de l'association Origine. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous êtes pour le moment 70% à trouver que c'est une mauvaise idée de lever l'anonymat sur le don de sperme.
Alors là,
ah bon?
Ah non, mais c'est génial cette émission parce que les gens ils te prennent à contre-pied tout le temps. J'étais sûr du contraire moi. Quand je vois à quel point les mentalités ont avancé sur la question de la fin de vie, sur la question de la PMA, etc. J'étais persuadé que sur la levée de l'anonymat ce serait pareil et que les gens seraient majoritaires pour y être favorables.
Alors chose due, on est avec Antonio qui nous attend à Villeneuve-sur-Yonne. Bonjour Antonio.
Bonjour.
Toi, tu es menuisier dans l'aluminium. Tu dis non, ça voudrait dire, si on ouvrait l'anonymat, qu'on pourrait choisir son donneur.
Bah oui.
Alors pourquoi?
Bah parce que si vous levez l'anonymat, les gens vont pouvoir choisir quel père ils veulent, quelle ethnie, quel régime social.
Alors il n'y aura pas de catalogue, hein. C'est pas ça.
Pour l'instant.
Aujourd'hui, quelle est la règle pour choisir un donneur? Il y a des critères.
Aujourd'hui, ce sont des critères d'appariement. C'est-à-dire que l'homme qui est stérile, hein, je parle uniquement des couples hétéros, puisque pour l'instant, il n'y a que ça qui est. La PMA est ouverte.
95% des PMA aujourd'hui sont intraconjugales. Hein.
Oui, alors ça c'est autre chose, c'est les FIV, etc. Mais là, je parle uniquement des PMA avec donneur.
C'est ça.
Voilà. Donc pour choisir un donneur, il y a des critères d'appariement, c'est-à-dire qu'on choisit la même couleur des cheveux, la même couleur de peau, la même couleur des yeux et le même groupe sanguin. Donc les critères sont ceux-là et c'est la banque de sperme qui choisit.
Donc ça, il n'y a pas de raison que ça change.
C'est pas sur catalogue. Par contre, je dirais quand même à ce monsieur, dans la vraie vie, les gens se choisissent parfois en boîte de nuit. Est-ce que c'est un meilleur critère? Est-ce que c'est un meilleur environnement pour faire ça, surtout quand on est rond comme un ballon? J'ai envie de dire, dans la vie, on se choisit pas sur catalogue. Par contre, on peut même se humer et se sentir et se respirer et sentir bien l'autre ou même mal le sentir. C'est-à-dire ne pas pouvoir le blairer, c'est-à-dire ne pas le sentir du tout. Et donc, on ne peut pas non plus écarter le fait que dans la nature, eh bien, les femmes
fait des choix, déjà.
Choisissent et les hommes aussi, j'espère.
Critère de groupe sanguin, pour quelle raison?
Le critère de groupe sanguin, c'est uniquement fait pour que, en classe de 3e, l'enfant ne découvre pas par lui-même sur le cours, sur la compatibilité des rhésus sanguins, qu'il n'est pas génétiquement de son père.
D'accord, pas qu'il fasse la découverte.
En fait, c'est pour organiser le secret, parce que la PMA a été écrite dans la loi comme étant organisée dans les conditions garantissant le secret. Voilà.
Construction intéressante. Merci beaucoup Antonio d'avoir été avec nous. On est avec Paul qui nous appelle de Poitiers. Paul, tu es employé dans l'associatif et toi tu as déjà fait don de ton sperme.
Oui, effectivement. Et le débat m'intéressait puisque étant donneur moi-même,
oui.
J'ai un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête dans le sens où en donnant, il faut partir dans l'éventualité que si cette levée de l'anonymat est faite, dans 20 ans, je peux très bien avoir une jeune fille ou un jeune homme qui va venir à ma porte et me dire « Bonjour, vous êtes mon père ».
Mon géniteur.
Mon géniteur, oui, tu dirais, on tient beaucoup à ce terme-là, entre père et géniteur. Non, mais Paul, la question...
La remarque de Paul reste vraie.
La question reste vraie, sauf qu'en fait, on va lui demander son avis à Paul. Savoir s'il veut qu'on lève son anonymat ou pas.
Alors les sénateurs veulent que dans 18 ans, enfin c'est la solution Friedman, mais il sait que René Friedman sait que je ne suis pas du tout d'accord. L'idée, ça serait que le donneur donne de manière anonyme ou pas anonyme et que dans 18 ans, on lui repose la question pour savoir s'il serait d'accord finalement de lever son anonymat ou pas.
Et il peut dire non.
Et il pourrait dire non selon la solution des sénateurs, mais c'est pas du tout la solution.
Mais là, c'est affreux.
Pourquoi? Parce que d'abord, ça va créer une inégalité entre ceux dont les donneurs diraient oui et d'autres non. Et puis surtout, c'est mentir aux donneurs.
T'as attendu, tu attends jusqu'à tes 18 ans.
Mais
et
oui.
Là, t'es sous une épée de Damoclès.
C'est atroce.
Où tu ne sais pas si on va te dire oui ou te dire non. Mais le bac ou le permis de conduire ou n'importe quel diplôme à côté.
Mais là, c'est Paul qui se sent avoir une épée de Damoclès.
Mais attendez, il faut que Paul sache une chose, c'est que la réalité vraie, c'est qu'avec les tests ADN, en fait, je suis désolé de lui dire, si un enfant le recherche,
il sera
retrouvé, même si lui ne fait pas de test ADN. Faut bien comprendre ça. Moi, j'ai retrouvé mon donneur, alors que mon donneur n'avait pas fait de test.
Comment
Il suffit que quelqu'un éloigné de mon donneur, mais qui appartient à son arbre familial, fasse le test pour que je le retrouve en 12 heures. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, c'est-à-dire, au moment où je vous parle.
C'est-à-dire qu'en gros, Paul, s'il a un cousin ou etc. qui fait le test, lui, il a juste donné son sperme. Donc pour le moment, il est à l'abri, on est d'accord. Il ne peut pas être détecté, entre guillemets. Ouais. Si son cousin l'a fait...
Et on te dit oui.
Voilà. Ah, d'accord.
On te dit oui. Paul, reste avec nous parce qu'on
vous
a, on a d'autres.
On peut interdire à tous les cousins de faire un test, de pas
absolument
faire de test.
C'est Paul, possible. Reste avec nous. On a d'autres questions pour toi, mais je vais prendre Benjamin qui est assez pressé. Benjamin, toi, tu nous appelles d'Uzes dans le Gard. On dit Uzes ou on dit Uzès?
Uzès.
Voilà, j'avais une chance sur deux. Uzès. Benjamin, toi, tu es livreur. Tu es né d'une fécondation in vitro avec ton frère. Est-ce que tu as recherché le géniteur?
Bonjour.
Salut Benjamin.
Salut Benjamin.
Non, alors, voilà, j'ai envoyé un message parce qu'en fait, avec mon frère, on a deux points de vue différents.
Ah, c'est marrant, ça.
Moi, personnellement, c'est lié au caractère. Hein. Moi, ouais, personnellement, je m'en fous complètement.
Ouais.
Mais alors, voilà, ça m'empêche pas d'avancer dans la vie. J'ai eu un enfant qui a eu des problèmes quand ma femme était enceinte. Pour trouver la génétique, on a simplement fait une amniocentèse et des tests et il n'y a pas eu de souci pour ça. Maintenant, mon frère, lui, il aimerait savoir. Donc, ouais, c'est vraiment lié au caractère, en fait. C'est lié au caractère à chacun. On peut pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Peut y avoir des donneurs qui ont envie de donner leur identité pour qu'on puisse les retrouver, sans forcément que la personne vienne un jour à 17 ans et dise bonjour papa ou bonjour maman, mais qu'il puisse rencontrer son donateur. Il y a des personnes, d'autres, et ils s'en foutent complètement, quoi.
Ouais, sauf que s'il trouve, il va trouver pour les deux.
C'est,
là,
c'est intéressant parce que pour te dire la vérité, je donne mon sang. Et je me suis posé la question il y a très longtemps de savoir, après tout, je donne mon sang, pourquoi je donnerais pas mon sperme aussi? Et effectivement, la première chose dont je me suis préoccupé, c'est de savoir s'il y avait l'anonymat. Et on m'a dit, l'anonymat m'est garanti à 100%.
Pas du tout.
Bah, même garanti à 100%, je me suis dit, mais si quelqu'un veut vraiment me retrouver,
si et pourquoi tu voulais l'anonymat? C'est la question que j'aurais reposée à Paul. Paul, pourquoi vous voulez l'anonymat absolument?
Je vais te répondre.
Alors, je pense que l'anonymat, d'une certaine manière, ça permet on va dire, comme disait Monsieur Le Chypre, effectivement, un parent affectif de se dire que son enfant va grandir et dans des conditions que lui-même aura sûrement déterminées.
Oui, mais toi, c'est une bonne action que tu fais.
Alors, moi, personnellement, en partant du principe que je suis un homme, si je ne pouvais pas procréer, oui, effectivement, je peux me mettre à la place de quelqu'un qui peut pas procréer en me disant j'aimerais que quelqu'un fasse un don pour moi, puisque je veux vivre une paternité, je veux vivre une parentalité. La question, c'est de savoir... est-ce que un donneur lui est prêt à donner ou pas son identité éventuellement pour que plus tard cet enfant puisse le retrouver et sache qui est son père biologique? Moi personnellement, la levée de l'anonymat ne me gêne pas. Et c'est juste une comment je pourrais dire ça, une contrainte à prendre en compte quand on fait un don.
Ah ouais, tu vois Paul moi c'est pas du tout la même
toi,
raison. Non, c'est pas du tout la même raison. Moi j'avais pas peur du tout qu'on me retrouve pour des raisons de filiation, de je sais pas quoi, etc.
Non,
c'est que quelqu'un qui vient sonner à ta porte et qui dit vous êtes mon géniteur, j'ai eu très peur moi de me sentir investi d'une mission ou d'une obligation affective. Et donc comme en plus quand tu donnes ton sperme, ce sperme peut donner naissance à plusieurs enfants. Mmh. Et donc, je ne me voyais pas un jour être confronté à cette nécessité d'affection avec quelqu'un que je n'avais pas choisi, moi.
Emmanuel nous a dit que l'amour, ça se décuple. Hein.
Non, je sais très bien. Oui, on peut dire ça. Mais ça, je pense que c'est facile sur le papier. Et puis, de très nombreuses années après, et je sais qu'Arthur a vu le film, j'ai vu Starbuck, qui est un film canadien, où en réalité, c'est un type, il a un métier, il vit de petits métiers, mais pour gagner des sous, il donne son sperme régulièrement. Et il se rend compte à un moment donné qu'il a donné naissance à 533 enfants, dont 140 d'entre eux se constituent en association pour retrouver leur géniteur. Et ça donne lieu à une comédie sentimentale absolument émouvante, formidable. Mais au fond, c'est de ça dont j'avais peur, moi.
Arthur Kermelvezen, quand on retrouve son père, c'est pas comme quand on a été abandonné. Son géniteur, on n'a rien à lui demander, en fait, à par qui il est presque sur son ADN, mais on n'est pas dans une démarche de demande d'affection, c'est pas ça le sujet.
Mais non, mais en fait, très souvent, les gens pensent que c'est une quête de bonheur. Parfois, on me dit, mais est-ce que t'as été plus heureux maintenant? Mais c'est pas une quête de bonheur, c'est une quête de liberté. Une quête de liberté. Quand je rencontre mon donneur, j'apprends qu'il est porteur d'une mutation génétique qui entraîne des phlébites, des embolies pulmonaires et des risques hémorragiques. J'ai eu des accidents, j'aurais pu y passer. Donc, par bonheur, je me suis fait tester, je n'ai pas hérité de ça, mais enfin, il y a un moment, il faut être conséquent. Quand l'État met la main, l'État engage sa responsabilité jusqu'au bout. Mais et il faut maintenir, cette égalité.
C'est le point de désaccord.
Les antécédents médicaux majeurs.
Pardon, je te tutoie, mais je sais pas bien, je devrais vous voyer.
Avec plaisir.
Si vous venez sonner à ma porte. Alors, et que vous me dites, vous êtes mon géniteur, mais qu'est-ce que vous croyez? Que moi, je vais recevoir ça, comme si de rien n'était, comme
mais une tu sais que t'as fait un don de sperme.
Non, mais c'est pas ce que je dis. Quelqu'un physiquement qui vient sonner chez toi et qui dit, vous êtes mon géniteur, et donc il y aurait zéro affect, ce serait une information
très
comme
bien.
Ça,
mais vous savez qu'il y a des, vous savez qu'il y a des philosophes dont on parle encore, qui sont venus sur Terre pour parler de l'amour. Ce dont vous parlez, c'est la vie.
Ouais.
Non, vous êtes en train de me dire, ce mot, je risque de l'aimer.
Mais pensez à celui qui reçoit la dépêche.
Dans la vie, le risque que vous prenez, c'est de vivre et peut-être même d'aimer.
Ouais,
mais on ne vous dit pas, par contre, je vous le dis d'un point de vue juridique, si vous aimez quelqu'un ou que vous entendez bien, peut-être que vous entendrez mal d'ailleurs, hein, on ne sait pas. Hein. Vous savez, la vie fait que on ne peut pas tout prévoir. Par contre, le droit français, lui, le cadre est extrêmement clair. C'est-à-dire que non seulement
non mais les sentiments ça
non mais non seulement
pas.
L'héritage c'est ne pas peut pas loi. Être mis en jeu mais surtout l'enfant n'aura pas à payer
filiation.
Votre maison de retraite et
filiation.
C'est important pour l'enfant
oui.
aussi.
Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, moi je vois pas pourquoi on veut obliger quelque chose. Pourquoi on laisse pas le choix? Celui qui veut faire un don du sperme, il peut avoir le choix de donner ou de ne pas donner son identité tout simplement.
Bah là
oui,
c'est le cas.
Il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis.
Pourquoi vous dites non?
Non, mais parce que la politique, ce sont des principes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a imposé aux donneurs de donner de manière anonyme. Il y a énormément de donneurs qui n'ont pas donné à cause de l'anonymat parce que c'est complètement obsolète, c'est complètement dépassé et qu'il y a beaucoup de gens qui disent...
Mais il y a beaucoup de donneurs qui ont donné parce qu'il y avait l'anonymat.
Aussi.
Ah bah voilà.
Mais il y en a de moins en moins parce que moi, dans mon association, il n'y a que des donneurs qui ont donné avec l'anonymat et qui disent aujourd'hui j'ai donné mais pas pour faire souffrir et encore moins pour qu'il y ait des questions sans réponse pour les enfants et que ça devienne compliqué et qu'ils n'aient pas leurs antécédents médicaux etc. Je veux dire les donneurs sont pas débiles hein. Ils réfléchissent et puis il y en a même qui sont ouverts d'esprit et donc ça c'est génial et surtout pourquoi j'ai insisté pour qu'on fasse la différence entre géniteur et père, c'est parce que tous les géniteurs qui ont peur de se sentir devenir père de cet enfant, parce que je l'entends cette crainte.
Ah oui.
C'est qu'ils n'ont pas compris la vraie différence entre ce qu'est être un géniteur et être un père. Et pour mon père, pour le coup, qui n'est pas mon géniteur, lui, il sait ce que c'est d'être un père et je vous jure qu'il laisserait sa place à personne.
Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous. Un grand merci à Paul également qui était à Poitiers. On est avec Quentin qui nous appelle depuis Vrigny, qui est responsable d'une équipe de chocolatiers. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Sympa toi, comme boulot, ça.
Ouais. Quentin, toi, t'es en attente d'un don d'embryon avec ton épouse. Ça fait combien de temps que tu attends?
Ça va faire bientôt 3 ans.
Ouais.
Bientôt 3 ans qu'on attend. En fait, on est passé par un accueil d'ovocytes, un don d'ovocytes. Après, en discutant avec le CECOS,
donc c'est la banque du sperme, hein, c'est ça le CECOS.
Centre d'études et de conservation des œufs et spermes humains.
Qui s'appelle l'Orio, banque du sperme, quoi.
Voilà.
Après, il s'avère que de mon côté, j'ai des petits soucis génétiques. Donc, en discutant, on est plus parti vers un accueil d'embryon. C'est-à-dire que l'enfant, génétiquement, n'aura ni de mon épouse, ni de moi.
D'accord.
Et en fait, du coup, sur le débat, après, ça va dépendre de quel point de vue on se passe. Moi, en tant que futur parent, ça peut être une peur, peut-être, qu'un enfant à ses 18 ans ait envie de retrouver ses origines.
Il le dira.
Donc après, c'est un petit peu égoïste.
L'enfant,
mais après, en se mettant au point de vue de l'enfant, c'est que positif. C'est que positif. Il veut avoir ses origines, il peut les trouver. Il ne veut pas, la question ne se pose pas.
Quentin, dans la levée de l'anonymat, dans la quête de connaissance du géniteur, évidemment, il y a la volonté de l'enfant et elle est parfaitement entendable, parfaitement légitime. Le problème, c'est que cette volonté engage d'autres gens. Ça engage d'abord ses propres parents, pas les géniteurs, ses propres parents qui vous ont élevé. Et puis ça engage le géniteur qui du coup peut se sentir investi d'une mission. Et ce géniteur, il a peut-être aussi une famille et des enfants qui ne vont pas faire comme si l'arrivée de cette information était comme ça, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Non, ça change des choses.
C'est un peu ce que je dis, c'est donc la peur que ça puisse changer beaucoup de choses.
Oui, mais attendez, la seule solution, c'est quand même qu'il n'y ait pas... C'est quand même que dès le départ, chacun se mette dans le crâne, finalement, que il n'y a pas cette épée de Damoclès. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus possible de se lancer dans cette démarche de part et d'autre en espérant, entre guillemets, qu'il n'y aura jamais de levée de l'anonymat. Aujourd'hui, je pense que tu ne peux plus.
Oui.
Tu, tu ne peux plus te lancer dans cette démarche.
Donc
comme ça.
Il faut
ça.
Être conscient qu'à tout moment, l'anonymat bah oui. peut être levé, ne serait-ce que bah par oui. la technologie.
En fait, nous, franchement, l'issue du projet de loi, pardon, hein, même si j'ai beaucoup de respect pour le débat, on a tout fait pour participer, on a rédigé des amendements, enfin franchement, c'est beaucoup donné, et sans un sou, hein. Mais quelle que soit l'issue, avec les tests ADN, il y a déjà l'accès aux origines. Et je tiens à prévenir les parents, nous, la majorité des enfants, enfin des adultes du coup, qui font les tests ADN, ne le disent pas à leurs parents.
Donc on est sur un tsunami de révélations.
On est sur un sujet intime. Qui ne regarde pas les parents. Petite anecdote intéressante sur le fait que ça engage les uns et les autres. Mon donneur me dit un jour, bon, j'ai bien réfléchi, je suis prêt à rencontrer tes parents. Je vais voir mes parents, ils me disent, bon, nous, on n'est pas vraiment prêt à rencontrer ton donneur. Et je leur ai dit, alors, vous êtes très mignon, hein, mais moi, j'ai absolument pas envie que vous vous rencontriez.
Bah oui.
Donc c'est très bien, vous et
chacun
vos fantasmes, c'est pas mon combat. Voilà.
On va continuer à parler ensemble d'anonymat sur le don de sperme, est-ce qu'il faut le lever ou pas. Merci beaucoup Quentin d'avoir été avec nous au 32-16. On sera dans un instant avec Camille. Camille, elle a été adoptée, elle a retrouvé une partie de sa famille au Brésil. Elle va nous raconter ça dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chypre.
Midi 15h,
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour, on est ensemble jusqu'à 15h. On va retourner dans un instant dans notre débat sur l'anonymat du don du sperme. Mais vous le savez, c'est aujourd'hui la grande finale du concours des meilleurs artisans de France en direct du Paris Event Center. 42 artisans sont en train de battre le fer, de faire du carrelage, de faire de la coiffure, de la maçonnerie. On est avec notre envoyé spécial sur le terrain. Notre
Florian Chevalet.
C'est Florian Chevalet qui est avec nous. Florian, on en est où du concours ?
Écoutez, on est à peu près à mi-parcours, là on est en plein dedans, les mains dans le ciment. Alors vous l'avez dit ici, et vous devez l'entendre d'ailleurs autour de moi, on découpe, on soude, on peint. Il y a 6 finalistes par métier, 7 métiers différents, la coiffure, la maçonnerie, l'art floral, la plomberie, le carrelage. Et donc ici, on se trouve à la plâtrerie. Alors l'épreuve ici, elle consiste en la réalisation d'un tori. Vous savez, il s'agit de ce portail traditionnel japonais, un portail rouge. Je me trouve justement avec l'un des candidats, Jérémy, bonjour. Vous êtes plâtrier plaquiste. Comment ça se passe pour vous l'épreuve?
Bon, ça se passe très bien, j'ai gagné une petite heure d'avance.
Ouais, vous êtes en avance.
Ouais, donc déjà c'est super et c'est très technique et ce que j'adore le plus. Plus c'est technique, mieux c'est et c'est là où on avance le plus. Et demander souvent des conseils à des anciens et des fois ça aide toujours et on en apprend tous les jours.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué ici dans cette épreuve?
Le plus compliqué, le plus important c'est de bien se réveiller le matin et de bien réfléchir. De bien compter, de penser au BA13, entre l'ossature et le BA13, et être pile dans les côtes pour être le meilleur.
Vous avez une société au Mans, c'est ça. Cette année de Covid, comment elle s'est passée pour vous professionnellement?
Bah écoutez, la première fois que j'ai créé ma société en mars, j'ai pu avoir la possibilité, quelques mois après, donc moins d'un an, j'étais un mois et demi à l'île de la Réunion, donc j'avais déjà dépassé mon chiffre d'affaires, donc c'est très bien. Et aujourd'hui, je l'ai encore doublé pour la deuxième année.
Donc vous avez beaucoup de travail.
Voilà, beaucoup de travail. J'ai embauché mon frère jumeau depuis le 1er février et ça se passe super bien. Et on essaie de faire de mieux en mieux, d'agrandir et de faire de plus en plus de départements.
Super, on est content pour vous, voilà. Jérémy. On vous souhaite bon courage pour cette épreuve. Pour l'emporter, il faudra évidemment être rapide, mais c'est aussi un travail de détail et de précision. Les résultats aux alentours de 19h.
Merci beaucoup, Florian Chevalet. Il y a 14 000 euros cash à se distribuer entre les lauréats. Demain, émission exceptionnelle dans Neumann Le Chypre. De 13h à 14h, on sera avec
les
tous
champions. Les champions
ces
seront là.
Artisans. Les champions seront avec nous. On retourne dans notre débat qui n'a strictement rien à voir sur le don du sperme. Est-ce qu'il faut lever l'anonymat sur le don du sperme? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour Neumann Le Chypre? Bonne. Pour Laurent Neumann, mauvaise. On est toujours avec Arthur Kermalvezen, président et cofondateur de l'association Origine. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Camille, qui est coiffeuse, qui aurait pu faire le concours des meilleurs artisans de France. Bonjour Camille.
Bonjour.
Toi, tu as été adoptée, tu as retrouvé ta famille au Brésil.
Exactement, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver, pas ma maman, mais mes grands-parents, mes oncles et tantes.
Ouais.
Mais il y a de ça plus d'une quinzaine d'années, donc voilà. Et actuellement, moi, je suis en parcours pour donner mes ovocytes.
Ouais, un parcours parce que c'est long, ça se fait pas juste comme ça.
Ah non, j'ai eu un premier rendez-vous il y a quelques semaines et il y en a au moins pour 4 à 6 mois.
D'accord. Pourquoi
t'as pas été rebutée par la difficulté de la procédure, parce que pour prélever les ovocytes, ça, d'abord c'est un long parcours avant, mais même pendant, il faut une anesthésie, c'est long, c'est compliqué. Ça t'a pas rebutée?
Alors pas du tout, parce que ma sœur, qui est l'enfant de mes parents adoptifs, a eu recours à 2 dons d'ovocytes.
D'accord.
Ça a été ma motivation, on va dire.
Donc toi, la question de la recherche de tes parents biologiques, ça t'a toujours animé, ça t'est arrivé sur le tard. On parlait à 18 ans de pouvoir enfin s'intéresser à ses parents biologiques. Toi, c'est venu quand?
Moi, c'est pas... Ça, je me suis jamais posé la question, en fait. Mes parents adoptifs m'ont jamais rien caché. Ils m'ont toujours expliqué les choses telles qu'elles étaient. Et c'est eux qui m'ont même payé le voyage et je suis partie avec eux au Brésil pour faire tout... Enfin, pour me montrer là où ils sont passés, les hôtels qu'ils ont fait et jusqu'à trouver mes grands-parents et mes oncles et tantes.
Et alors, tout à l'heure, on disait avec notre invité, c'est un parcours qui permet de se sentir libre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être heureux. Est-ce que toi, tu partages ce point de vue?
Oui, tout à fait. Parce que je vais dire qu'on a une petite, pas épée de Damoclès, mais une petite voix extérieure qui nous dit « mais qui c'est quoi ?» Et une fois qu'on le sait, ben on peut se mettre un visage sur quelque chose et être libre, oui.
Mais Camille, là tu vois, tu parles de tes grands-parents, de tes oncles et tantes, donc cette famille que tu as retrouvée, c'est devenu quasiment une nouvelle famille.
Pas du tout. Ils sont très pauvres et on n'a pas de moyen d'échange, on n'a pas de moyen de contact. J'ai des photos, mais voilà, il n'y a plus de contact en fait.
C'est pas une nouvelle famille, ça n'a rien à voir.
Pas du tout. Et moi, en donnant mes ovocytes, je suis pour que les enfants sachent qui c'est, parce que ça, on est géniteur, on n'est pas parents en fait.
Donc toi, tu serais favorable à la levée de l'anonymat, en l'occurrence. Ça ne te gênerait pas que ton nom, au moment du prélèvement de vos sites, soit répertorié dans un listing et que dans 18 ans, un enfant né grâce à tes ovocytes puisse te retrouver?
Absolument pas. Ça ne me dérange pas du tout.
D'accord.
Tu es favorable à cette recherche d'identité. Merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous dans Neumann Le Chypre. Un grand merci à Arthur Kermalvezen, j'ai bien dit votre nom, président et cofondateur de l'association Origine, représentant des associations de défense du droit à la connaissance de ses origines. Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous êtes finalement 60% à avoir répondu comme Laurent Neumann. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée, de lever l'anonymat sur le don de sperme.
Voilà, ça a bien baissé quand même.
Ça a baissé et donc la loi est en troisième lecture aujourd'hui au Sénat. C'est l'heure de C'est bon à savoir.
RMC, Neumann Le Chypre.
C'est bon à savoir.
Lisa Marie Marquez, on va parler des présidentielles. On connaît les dates qui vont être bientôt officiellement annoncées, mais en fait, on les connaît déjà.
Oui, des élections qui devraient avoir lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Les dates définitives seront annoncées mercredi prochain à l'issue du Conseil des ministres. Écoutez ce qu'a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, à Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV hier à propos de ces dates.
C'est une date qui sera annoncée, confirmée la semaine prochaine, a priori. Mais c'est un scénario très, très sérieux, une piste très sérieuse. Ça sera au printemps prochain. Ça peut difficilement être le 1er et 8 mai, pour des raisons évidentes. Et donc, ce sera annoncé la semaine prochaine.
En fait, ces dates d'élection sont un vrai casse-tête de calendrier pour le gouvernement. Le premier tour doit nécessairement se tenir entre le 8 et le 23 avril, car la Constitution impose qu'il soit organisé entre 35 et 20 jours avant la fin du mandat présidentiel. Et celui d'Emmanuel Macron expire le 13 mai. Et comme l'a expliqué Gabriel Attal, pas question de fixer une élection un jour férié, le 1er ou le 8 mai. Il y a aussi le dimanche 17 avril qui correspond au dimanche de Pâques. Les dates des 10 et 24 avril semblent donc être la meilleure option, bien qu'elles coïncident avec les vacances scolaires de la zone B pour le premier tour et de toutes les zones pour le second tour. Et des élections présidentielles en pleine période de vacances scolaires, ça fait craindre une forte abstention. Est-ce qu'il faudrait tenir compte du calendrier des vacances scolaires pour fixer la date des élections présidentielles? Qu'est-ce que tu en penses, Laurent?
Déjà, c'est pas la première fois que les élections élections ont lieu pendant des vacances. Et deuxièmement, tu as parfaitement résumé le sujet. Il n'y avait pas d'autre date possible. Tu peux pas faire ça le 8 mai, tu peux pas faire ça le 1er mai, et tu peux pas faire ça le 17 avril parce que c'est le dimanche de Pâques.
Ça laisse peu d'options.
Donc du coup, et par ailleurs, tu as un créneau qui est extrêmement étroit, entre 20 et 35 jours avant le 14 mai. 14 mai 2017, date d'entrée en fonction d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat. Donc en réalité, il n'y a pas le choix. Donc j'entends très bien ce que disent les gens, mais le problème c'est que personne n'a d'alternative à proposer. Ou alors, allons-y, changeons la
constitution. Vas-y, propose une date.
Mais non, mais c'est pas. Mais voilà,
changeons la constitution.
Mais là, vous restez dans le schéma habituel du vote du dimanche. Mais justement, essayons de faire avancer le débat pour moderniser la façon de voter.
Votons sur plusieurs jours.
Non, pas du tout. Parce que d'abord, si tu dis votons sur plusieurs jours, c'est exactement le même sujet. Pour le coup, ça évite.
Les vacances.
Contrainte. Oui. Votons par correspondance. Votons avec notre téléphone portable.
Je t'ai expliqué hier que c'était pas sécurisé.
Mais c'est pas vrai.
Aujourd'hui. T'as admis que ça l'était pas aujourd'hui. C'est trop tôt.
Mais c'est trop tôt. Mais attends, tous les pays qui sont revenus dessus, c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Encore une fois, il y a des nouvelles technologies qui permettent ça, mais parce qu'il y a du fantasme, je veux dire, mais évidemment il y aura des agressions tout le temps. Mais
donc toi tu proposes
aujourd'hui
le mercredi 15 avril, quoi.
Mais attends, il y a plein de pays où tu votes en semaine. Je vois pourquoi on est sacralisé. Non, mais ça montre bien qu'on a aucune envie de réfléchir à la modernisation de la façon de voter. Et si on se prend la tête sur ces dates, ça veut bien dire que il y a aucune réflexion sur la modernisation de la façon de voter. Et ben continuons, puis après on fera des belles émissions où Laurent sera le premier à gémir, à geindre et à pleurer parce que les taux de participation sont lamentables.
Tu crois sérieusement que le taux de participation va dépendre de ces deux dates. Tu crois sérieusement que la fête des pères dimanche dernier est l'explication de l'abstention régionale? Mais c'est une blague.
Attends. Je te concède qu'à la présidentielle, ce sera sans doute effectivement un peu différent.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer une autre date, un autre jour qu'un dimanche?
Pourquoi pas? On pourrait décider qu'on ne vote plus le dimanche. À mon avis, ceux qui se plaignent du choix des deux dimanches diraient que c'est un scandale d'obliger les gens à voter la semaine quand ils travaillent, tu verras. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas au même endroit que l'endroit où ils votent.
C'est vrai.
Du coup, il faudrait les pousser à faire des procurations ou à prendre une journée de congé sur leur jour.
Il y a combien de gens qui sont inscrits sur des listes électorales loin?
Pas du tout de là où ils habitent.
Énormément.
Là où ils habitaient il y a 5 ans.
Donc c'est mieux. C'est mieux d'y aller le week-end.
Extrêmement archaïque et compliqué. Enfin, je veux dire.
Il faudrait peut-être, je lance une piste, pouvoir voter n'importe où.
On n'est pas capable d'avoir un fichier. Attends, t'as bien un fichier de la Sécu. Tu vas dans n'importe quelle pharmacie, on te retrouve. Là, t'arrives dans n'importe quel bureau.
Je pense qu'il faut te nommer urgemment ministre de la réforme de l'État.
Je peux te dire que ça irait un petit peu plus vite. Voilà.
Et tout ça dans la bonne humeur. Merci beaucoup, Lisa Marie.
En faisant des économies, en tout cas.
Tu crierais aussi sur les Français?
Sur les fonctionnaires.
Les fonctionnaires qui ne veulent pas changer.
C'est bon à savoir sur tous nos réseaux sociaux et sur rmc.fr. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler site de paris en ligne sur RMC. Ils connaissent un franc succès, notamment avec l'euro. Parier de l'argent, est-ce que ça rend les matchs plus excitants? On vous attend 32-16 pour ML, c'est non. Pour Laurent, c'est oui. Est-ce que vous pariez pendant les matchs? C'est notre question sur RMC Story. On vous dit à demain. Salut.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chiffre.